Bonjour à tous et à toutes, ici Catherine Ego. Bienvenue à cette édition des Pulls à l'antenne, le balado des presses de l'Université Laval. Je reçois aujourd'hui David Gaudreau, qui publiait récemment au Pull Chronique de la violence, une généalogie de l'intimidation scolaire. Cet ouvrage est issu des recherches effectuées par David Gaudreau dans le cadre de sa maîtrise en sociologie, des travaux qui lui ont valu en 2018 le prix d'excellence Georges-Henri Lévesque, décerné annuellement par l'Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue française aux meilleures mémoires de maîtrise rédigées en français au Canada. Qui n'a pas entendu parler du fléau de l'intimidation à l'école ? Dans cette entrevue, David Gaudreau remonte l'arbre généalogique des violences scolaires jusqu'au châtiment corporel infligé autrefois par les maîtres. Il nous aide ainsi à mieux comprendre l'émergence et le déploiement de l'intimidation en tant que problème social. David Gaudreau s'intéresse aux mécanismes par lesquels ce phénomène ancien des agressions entre élèves s'est graduellement imposé dans les médias et dans les politiques publiques au début des années 2000, dans la foulée des paniques morales entourant les gangs de rue puis le taxage. Avec « Chronique de la violence, une généalogie de l'intimidation scolaire », David Gaudreau signe une analyse passionnante du regard que notre société porte sur la violence, sur l'école, mais surtout sur la jeunesse. David Gaudreau, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez aux presses de l'Université Laval « Chronique de la violence, une généalogie de l'intimidation scolaire ».
Oui.
Quand on parle d'intimidation dans le langage courant, on pense d'abord à un phénomène récent, puis on pense à des comportements entre jeunes, entre élèves ou entre étudiants. Vous remontez beaucoup plus loin dans le temps, et puis vous faites une histoire vraiment généalogique de l'intimidation. Alors ça commence comment ?
Quand j'étais un jeune étudiant en sociologie, donc quand j'étais au niveau du baccalauréat, les années 2010-2012, on voyait vraiment une effervescence, une médiatisation très, très présente, très fréquente, presque quotidienne de l'intimidation dans les médias, de la part de nos décideurs, nos décideuses politiques. Donc, en tant que jeune étudiant, je me demandais, est-ce qu'on en parle autant parce que c'est nouveau? Est-ce qu'on en parle autant parce que c'est pire qu'autrefois? Et donc, j'en suis venu de fil en aiguille à aller lire des travaux d'historiens d'abord, qui m'ont convaincu sans grande surprise qu'il n'y avait rien de nouveau là-dedans. La querelle, la bataille, l'ostracisation et les autres formes de violence à l'école sont vraisemblablement aussi vieilles que l'école elle-même. Il n'y a rien de nouveau à la violence chez les jeunes, entre jeunes, à l'école, dans l'école. Même au contraire, certaines pistes historiques peuvent nous amener à penser que nos institutions, que le monde de l'enfance contemporain est beaucoup moins violent qu'autrefois. Pourquoi ça nous apparaît comme un nouveau problème social, un enjeu de société problématique dont il faudrait s'occuper, etc., qu'il faudrait prévenir, etc., si c'est pas les conditions objectives qui s'empirent, si c'est pas les conditions objectives qui sont nouvelles, c'est donc qu'on est devant un nouveau regard social. Et d'une certaine façon, c'est devenu un peu ça, comme j'essaie de l'expliquer dans le livre, c'est devenu ça mon objet d'enquête, non pas l'intimidation en elle-même. J'ai décidé de m'intéresser au discours qui entourait l'intimidation pour déplacer le regard sur l'apparition de ce nouveau regard social-là. Donc c'est moins les comportements de jeunes qui seraient nouveaux que la façon dont les adultes lisent ces comportements-là. On considère comme problématique des gestes qui autrefois apparaissaient soit banals, soit que ces gestes-là étaient passés sous silence ou invisibilisés, tout simplement parce que les adultes ne les observaient pas, parce qu'ils n'étaient pas définis comme relevant d'une dimension du social problématique. Donc d'une certaine façon, ça m'en conduit sur une enquête sur les métamorphoses de notre façon d'appréhender et de concevoir l'enfance.
Mais votre enquête, elle va au-delà des violences entre jeunes. Vous remontez jusqu'à la violence de l'école, de l'institution envers les jeunes.
Tout à fait. Avant les années 2000, pour faire simple, il était très peu question de la violence des jeunes. Et il était plutôt question de ce qui préoccupait les adultes. C'était plutôt la violence de l'institution. Et donc, parler de la violence des élèves, c'est un phénomène relativement récent, même dans le monde scientifique, parce qu'au 20e siècle, disons dans la deuxième moitié du 20e siècle, on s'intéressait plutôt, je parle bien du monde académique, du monde scientifique, on s'intéressait plutôt à la violence symbolique, à la violence institutionnelle, voire même aux abus de pouvoir qu'il y a pu avoir de la part des maîtres d'école envers les élèves. Et tout ça prenait place, d'une certaine façon, dans une réflexion collective sur la bonne manière d'éduquer.
Au 18e, 19e siècle, on ne s'interrogeait pas là-dessus. Pourtant, il y avait les châtiments corporels.
Oui.
Les enfants étaient vus comme... Bon, comme quoi? Comme des espèces de petits sauvageons qu'il fallait dresser.
Exactement. Et donc, pour qu'on en vienne à s'intéresser à la violence scolaire, il a d'abord fallu qu'on change notre regard sur l'élève. Au 19e siècle, même au 18e siècle, et ça perdure jusqu'au 20e siècle, il y a une réflexion de fond qui en vient à délégitimer finalement la discipline traditionnelle, celle du redressement qui comprend la correction physique. À partir, disons, la deuxième moitié du 20e siècle, surtout en Occident, et c'est encore plus vrai aujourd'hui au 21e siècle, cette correction physique est presque complètement délégitimée. Bon, ça reste complexe. Les lois canadiennes autorisent encore une correction physique, notamment à l'autorité parentale et à ses délégués, mais c'est très, très encadré. Et de manière générale, dans les mœurs, on observe, je pense, une tendance forte à la délégitimation de ces... de ce recours à la violence physique dans l'éducation des enfants. Et donc, pour simplifier, c'est à partir du moment où le rôle de l'élève et où le traitement approprié de l'élève change, donc à partir du moment où la violence de l'école envers l'élève est délégitimée, que peut apparaître dans notre horizon mental, dans nos catégories mentales, quelque chose comme la violence entre élèves. Un peu comme si il avait fallu qu'on délégitimise la violence de l'école pour que la violence dans l'école nous apparaisse comme une catégorie signifiante.
Et ça s'exprime à la fin du 20e siècle par une focalisation sur les gangs de rue.
Exactement. Encore une fois, par la méthode généalogique, j'ai voulu remonter à l'origine de la chose. C'est-à-dire, bien sûr, le mot intimidation existait avant le problème public de l'intimidation. On en parlait déjà, par exemple, dans des conflits de travail. On dira que la partie syndicale intimide la partie patronale ou inversement. On l'utilise dans le champ lexical géopolitique pour dire qu'un État en intimide un autre, etc. Donc, je me suis demandé à quel moment le mot intimidation est devenu une chose, un problème public allant de soi dans notre économie morale contemporaine. Et donc, pour faire ça, j'ai notamment eu recours à la presse écrite, où là, j'ai fait des recherches par association de mots-clés. J'ai essayé de trouver à partir de quel moment des mots comme intimidation scolaire, violence scolaire, etc., étaient utilisés selon l'acception contemporaine qu'on connaît aujourd'hui, donc de problèmes publics, de violence interpersonnelle entre mineurs. Ce qui m'a absolument fasciné, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est un des avantages de la méthode inductive, parce que moi j'ai tout simplement, je suis parti des années récentes, et je suis remonté à rebours jusqu'à ce que se perde la trace de l'acception contemporaine de l'intimidation, pour finalement me rendre compte que les premières fois que dans la presse écrite, que dans des discours politiques, dans des discours scientifiques, les premières fois qu'on parle de violence à l'école, au sens de violence des élèves, de violence entre élèves, on n'est pas du tout dans une lecture psychologique, inter-individuelle, comme on l'est aujourd'hui, mais on est dans une lecture de violence matérielle, de violence délinquante, de violence qu'on associe à des gangs de rue racisés. Et donc, c'est vraiment mon corpus qui m'a amené à constater que la généalogie de l'intimidation scolaire comme catégorie publique signifiante tirait ses origines d'une préoccupation qui a eu lieu dans les dernières décennies du 20e siècle jusqu'au début du 21e siècle sur les gangs de rue. Et donc, il y a eu ce que d'autres sociologues avant moi ont appelé une panique morale et littéralement une construction raciale de la dangerosité. Et donc, c'est vraiment par cette construction du phénomène des gangs de rue ou bandes de jeunes qui est entrée, d'une certaine façon, je dirais, par la porte d'en arrière, la question de la violence scolaire. Tout se passe comme si c'est vraiment la préoccupation pour la violence des quartiers sensibles qui avait conduit à problématiser la violence dans l'école. Il faut comprendre que toute cette construction raciale de la dangerosité des jeunes prend aussi place dans le cadre du contexte politique de ces années-là. Un contexte politique qui a été qualifié par des sociologues comme David Garland de néoconservateur. On a assisté vraiment à un tournant punitif autour de la délinquance, et de la délinquance juvénile en particulier. Et donc, ce que je montre dans le livre, c'est que cette construction raciale de la dangerosité, elle découle d'une volonté publique de durcir les contraintes pénales, de durcir le traitement judiciaire et policier autour des jeunes délinquants. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on voit apparaître des catégories, qu'on assiste à la construction de certaines catégories, comme les catégories de gangs de rue, qui sont réellement créées, qui sont produites par les autorités policières, par les autorités judiciaires, par les autorités politiques, conformément donc à cette mouvance politique néoconservatrice qui fait de la sécurité son mot d'ordre. Cette idéologie de la tolérance zéro, un vaste mouvance qui a eu lieu justement dans les 2-3 dernières décennies du 20e siècle et jusqu'au début du 21e siècle. Tolérance zéro qui signifie qu'aucun délit n'est acceptable et que tous doivent être punis. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que là, on construit des catégories comme les gangs de rue, comme le racket, comme le taxage, qui deviennent finalement des cibles légitimes, des nouvelles cibles des opérations policières, conformément à leurs nouveaux objectifs de durcissement de la répression et de tolérance zéro. La thèse du livre, d'une certaine façon, c'est que l'intérêt accru autour de ces petites délinquances, des petits méfaits, des petits rackets, du taxage, et donc un nouvel intérêt policier, un nouvel intérêt éventuellement scientifique autour de la petite délinquance mineure va construire ces catégories de violences juvéniles qui peu à peu vont se reformuler et on assiste à une transformation de la grille de lecture qui devient beaucoup moins criminologique et davantage psychologique.
Donc, dans les années 80, ce dont on parle, parce que vous, votre corpus, c'est les articles de journaux, dans les années 80, ce dont on parle, c'est les gangs de rue.
Oui.
Ensuite, il y a le taxage. Ça consiste à racketter les jeunes. Ça reste encore dans le monde de la violence entre jeunes.
Tout à fait.
Puis, ce qui change, c'est dans les années 2010-2012. Là, on parle d'intimidation en tant que telle. C'est oui. Plus un corollaire des autres phénomènes. Ça devient un problème en tant que tel. Comment s'opère ce changement-là?
On vient de parler des gangs de rue, on a parlé en introduction de l'intimidation, mais effectivement, entre les deux, il nous manque comme une pièce du puzzle. Le taxage, donc le racket, qui a vraiment été une panique morale exemplaire, au sens où, quand on quantifie la mention de taxage, et on peut très bien le faire au Québec, parce que le mot taxage est vraiment un québécisme vraiment propre, spécifique à ce nouveau problème public, on voit vraiment une cloche. Là. Il y a une année de naissance du taxage, il y a une montée fulgurante et il y a finalement un évanouissement. Aujourd'hui, plus personne ne parle de taxage. Si vous allez dans les écoles, vous parlez aux jeunes de taxage, ils ne sauront sans doute même pas de quoi il s'agit. Alors que moi, quand j'étais sur les bancs d'école, on ne nous parlait pas d'intimidation, mais on nous parlait de taxage. Dans les années 90, on assiste à la multiplication de ce qu'on appelle des polices communautaires ou des polices de milieu. Ou là, toujours dans cet esprit-là de la tolérance zéro, on développe l'idée donc de créer des unités de police communautaire. C'est comme la rencontre entre finalement contexte conservateur punitif, mais en même temps, on est déjà en train de faire un virage vers le préventif. On se dit peut-être qu'on répondrait mieux à nos objectifs de tolérance zéro si les policiers apparaissaient plus sympathiques aux jeunes. Si les policiers allaient rencontrer les jeunes dans les écoles pour leur distribuer des condoms, pour leur parler des risques de la drogue, des risques de se faire recruter par des gangs de rue, etc. Au Québec, dans les années 90, le mandat de police jeunesse, donc une unité à l'intérieur de la police de Montréal, change complètement de vocation. C'est-à-dire que cette unité avait jadis comme rôle de s'occuper de tous les délits qui étaient commis par les mineurs. Or, avec la réorientation, police jeunesse devient seulement en charge des délits mineurs, mais cette fois-ci non plus au sens de l'âge des délinquants, mais de leur gravité. Le racket autour de l'école, les petits vols, les graffitis, la toute petite délinquance. Et donc, notamment, dans ses nouvelles fonctions, police jeunesse est réorientée dans des activités scolaires. Elle assure une présence, ce qu'elle ne faisait pas de façon systématique auparavant, dans les écoles, mais aussi dans des écoles qu'on juge plus à risque ou plus chaudes pour surprendre sur le vif des transactions de drogue ou des délits quelconques. Et ce que je montre dans le livre, ça m'apparaît assez fascinant, ce changement d'orientation de police jeunesse est exactement concomitant de l'émergence du thème du taxage dans la société québécoise. Donc, tout se passe comme si ces nouveaux corps policiers, donc, qui ont maintenant à se déplacer dans les écoles pour intervenir auprès des écoles, c'est comme si, d'une certaine façon, ils cherchaient à définir leur raison d'être dans ces milieux. Et donc, on voit apparaître de nouvelles catégories délinquantes, de nouvelles cibles de la répression qui, d'une certaine façon, non seulement justifient la présence des policiers dans ces milieux, mais aussi orientent leurs interventions. Entre les gangs de rue et le taxage, ce qui s'est passé, c'est une volonté accrue de la police de se déployer dans les écoles pour voir ce qui s'y passe, pour faire de la prévention, pour également faire de la répression. Mais incidemment, ça a eu comme conséquence de produire de nouvelles cibles de répression, et donc par le fait même de nouvelles catégories délinquantes, ce qu'on a appelé au Québec le taxage et ce qu'on a appelé en Europe le racket.
La police met en place des programmes qui attirent l'attention sur un phénomène qui est somme toute marginal ou en tout cas qui existait depuis un certain temps. Et là, ça crée une espèce d'ébullition.
Exactement.
Et puis, le gouvernement donc met en place des politiques, des programmes pour régler le problème. On repart un petit peu à zéro, c'est ça?
C'est un peu comme ça. C'est un peu cyclique, effectivement, oui.
Et comment est-ce qu'on passe du taxage à l'intimidation?
Pour synthétiser, on est passé des gangs de rue au taxage par une certaine volonté de rapprocher les policiers des gens. Du taxage à l'intimidation, je parle de changement de propriété du problème public. Ça mérite un certain nombre d'explications. C'est que dans les deux cas qui viennent de nous occuper, donc dans les gangs de rue et dans le taxage, on peut dire que les propriétaires du problème public, c'était vraiment les organes policiers, voire les organes judiciaires, et dans certains cas, les organes politiques. Par propriétaire des problèmes publics, il faut bien entendre ceux qui ont le pouvoir de définir les catégories signifiantes, de définir donc qu'est-ce qui pose problème dans la société, dans le cas qui nous occupe, de définir qu'est-ce qui pose problème dans l'école, qu'est-ce qui pose problème chez les jeunes, et également de définir les solutions adaptées, qu'elles soient de type préventif ou autre. Au tournant des années 2000, s'opère un changement de la propriété, donc qui passe des organes répressifs policiers au champ qu'on pourrait appeler psychologique ou psychosociaux ou scolaires. Tout se passe comme si, au tournant des années 2000, ce n'était non plus la police qui avait la légitimité de définir ce qu'était la violence chez les jeunes, mais plutôt le champ psychologique, le champ associatif, le champ psychosocial, etc. Et donc, d'une certaine façon, il y a là un basculement beaucoup plus drastique entre le taxage et l'intimidation, qu'entre les gangs de rue et le taxage, parce qu'il y a un changement de grammaire. Parler de gangs de rue, parler de violence criminelle, parler de violence physique, parler de délinquance, parler de jeunes donc qui sont potentiellement armés, qui trafiquent de la drogue, etc., à une violence morale, à du harcèlement psychologique, à du harcèlement virtuel. Il y a tout un changement de grille de lecture. Il y a tout un changement, finalement, de grammaire. On passe d'une problématisation d'une adolescence dangereuse à une problématisation d'une enfance vulnérable.
Puis on passe aussi du groupe à l'individu, oui, oui. Parce que les gangs, ce sont des groupes. Alors tout que quand fait. On parle d'intimidation maintenant, c'est un enfant qui s'attaque à un autre enfant. On est dans l'individuel.
Exactement, exactement. Donc là, on pourrait aussi parler de la psychologisation ou l'individualisation, la dépolitisation de la violence. Et mon étude, somme toute modeste parce qu'elle porte sur un objet particulier, l'intimidation scolaire, est évocatrice de tendances sociales plus vastes, comme notamment une psychologisation des problèmes sociaux. Donc on va effectivement interpréter certains problèmes sociaux avec une grille de lecture davantage psychologisante, psychologique, mais également plus individuel. Bon, parfois, on n'exclut pas la possibilité qu'un groupe de jeunes s'en prenne à une victime isolée, mais essentiellement, on est vraiment dans une problématisation inter-individuelle de la violence à un niveau psychologique. Donc, les agresseurs seraient agresseurs parce qu'ils auraient certains traits de personnalité de l'agresseur, par exemple manque d'autocontrôle, difficulté de communiquer verbalement, donc recours à la violence pour communiquer, un certain nombre de caractéristiques comme ça associées à l'agresseur, et inversement, la victime serait victime parce qu'elle posséderait certaines caractéristiques psychologiques, faible estime de soi, difficulté à s'affirmer, peu de compétences sociales, etc. Donc là, on est vraiment dans une grille de lecture interindividuelle, psychologique de la violence. Mais pour revenir à votre question, ce qui se passe entre les deux, me semble-t-il, c'est vraiment un changement de la propriété du problème public. Donc, qui définit finalement ce qui pose problème?
Ce qui est sur l'écran radar maintenant, c'est l'intimidation. On lui attribue beaucoup de mots, vraiment une grande souffrance chez les jeunes. Est-ce qu'elle a le dos trop large, l'intimidation?
J'aime bien votre question. Bien sûr, quand on traite d'un sujet comme l'intimidation, comme je le fais, c'est assez délicat, parce qu'il ne faut absolument pas que nos lecteurs aient l'impression qu'on minimise les problèmes parce qu'il y a des réelles souffrances qui sont derrière ces comportements. Mais effectivement, dans mon enquête, j'ai pas pu passer à côté de la constatation qu'un thème est au sommet de sa popularité. Quand une catégorie comme l'intimidation en est à son apogée, elle peut effectivement être utilisée de façon galvaudée. C'est-à-dire que on peut avoir facilement tendance à interpréter des faits divers à la lumière de cette catégorie. Et dans certains cas, ça peut être pertinent. Sauf que, en tant que chercheur, quand on veut avoir un regard rationnel, il faut bien voir que des événements tragiques ont rarement une seule dimension. Et donc, parfois, ce sont des catégories qui, plutôt que d'éclairer une situation, ça peut complètement la brouiller et la rendre opaque. L'intimidation... c'est un discours d'adulte sur les enfants.
C'est une explication simple.
Exactement. L'intimidation est la seule responsable. Donc, quand on dit une chose comme ça, on trompe le public d'une certaine façon. Tout un chacun se souvient que l'adolescence, ça peut être très, très éprouvant, l'adolescence. En tant que chercheur, parfois, il faut faire de tels appels à la rationalité, c'est-à-dire de se méfier de la popularité des catégories qui, parce qu'elles sont populaires, puis on pourrait presque dire à la mode, deviennent des explications simplistes pour des tragédies qu'on se doit d'expliquer avec toute la complexité et la rigueur intellectuelle qu'elle nécessite. Là. Donc oui, effectivement, ce sont des explications qui peuvent devenir un peu simples, surtout dans un contexte justement où on veut par exemple faire passer une loi pour lutter contre l'intimidation. On veut qu'il y ait plus de ressources dans les écoles pour lutter contre l'intimidation. Mais il ne faut pas pour autant s'approprier des tragédies d'une certaine façon, quitte à obscurcir la lecture des événements.
Donc l'intimidation, elle aurait le dos trop large, mais en plus, c'est un peu une catégorie fourre-tout. On met dedans des bousculades, des menaces, des coups peut-être, quoique là on tombe dans une autre catégorie, mais exact. On met une grande gradation d'agression.
Oui, c'est effectivement aussi une catégorie un peu fourre-tout. Même la violence physique est incluse dans l'intimidation, violence verbale, harcèlement, cyber-intimidation, évidemment, qui apparaît avec... l'usage d'Internet et des réseaux sociaux qui se répand dans les années 2010 environ. Donc oui, ça devient un peu une catégorie fourre-tout et on peut se demander finalement qu'est-ce qui est à consistance interne de cette catégorie-là.
Vous disiez tout à l'heure que le problème public de l'intimidation avait connu son apogée dans les années 2010-2012. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'il y a comme un éléphant dans la pièce, un grand absent de la réflexion sur la violence scolaire, c'est la violence envers les profs.
Oui.
Dont on parle quand même un peu plus ces dernières années. Est-ce que c'est ça, la prochaine panique morale?
Ça m'est apparu vraiment intéressant parce que en dépouillant mon corpus, en faisant des recherches par association, par mots-clés, je voyais très bien parfois des articles de journal en particulier qui visaient à dénoncer la violence envers les profs, la violence des élèves envers les professeurs. Mais d'une certaine façon, ça tombait toujours un peu à plat. Il n'y a jamais eu d'exposition médiatique, publique, politique, d'envergure, comme on l'a vu pour la violence entre jeunes. Et donc, j'appelle ça d'une certaine façon un problème public manqué, en me permettant un peu une petite boutade. Épisodiquement, on voit poindre dans l'actualité des dénonciations de la violence envers les profs. Est-ce que ce sera le problème de demain, j'ose pas m'aventurer sur de telles prédictions, mais ça va certainement être intéressant de voir les prochaines métamorphoses de notre regard collectif, de notre regard social sur les comportements problématiques à l'intérieur de l'école et plus largement dans le monde de l'enfance, de l'adolescence, etc.
Parce qu'il y aurait des gens qui auraient intérêt à dénoncer quand même la violence envers les profs, leurs syndicats, ce sont des groupes. Oui. Est-ce que ce problème-là n'arrive pas à émerger parce qu'il exige une appréhension collective, alors qu'on est dans ce que vous appelez une société d'individus? Vous dites que l'intimidation, c'est un problème de société, mais une société d'individus.
Tout à fait. La violence envers les profs, c'est une grille de lecture un peu plus collective. Donc
on, et politique.
Et politique, tout à fait. Parce que là, on est vraiment dans des groupes d'intérêt, donc les professeurs, les élèves, le politique, les syndicats, on est là vraiment dans une réflexion collective. Alors que comme on l'a abordé précédemment, au tournant du 20e siècle, ou en tout cas dans tout le champ lexical de la violence des jeunes, on a vraiment individualisé notre grille de lecture sur la violence à l'intérieur des murs. Donc, sans doute, le fait que notre grille de lecture de la violence soit devenue très, très psychologisante et individualisante, sans doute que ça complexifie la dénonciation et l'affirmation de violences qui sont davantage collectives, politiques, qui concernent des enjeux entre groupes sociaux, comme par exemple la violence que subissent les profs. Ouais.
David Gaudreau, je rappelle que votre livre s'intitule « Chronique de la violence, une généalogie de l'intimidation scolaire ». C'est paru aux presses de l'Université Laval en 2022. C'est une lecture vraiment passionnante qui nous fait nous interroger vraiment sur la manière dont nous regardons les jeunes et la manière dont on conçoit la violence. Merci.
Merci beaucoup.